Évidemment, enfin évidemment, et peut-être à vous aussi, pensez au psaume 34 qui commence par « Je suis fier du Seigneur » et qui se termine par « Le Seigneur rachète la vie de ceux qui le servent, de ses serviteurs, et aucun de ceux qui l'ont pour refuge ne connaîtra la punition. » Alors ça, c'est un encouragement puissant. Je vais planter le décor de mon propos de ce matin en lisant dans le livre des Actes des Apôtres le chapitre 2 et le verset 42, enfin à partir du verset... Ah oui, c'est vrai que c'est pas la peine que je parle dans le micro s'il n'y a pas de micro. Oui, comme ça, ça me donnera davantage conscience du fait que je dois m'adresser à tout le monde. Donc, le décor, c'est celui de des tout premiers... Merci beaucoup, Martine. Ça va m'être utile. C'est celui des tout premiers temps de la toute première Église. Alors, la toute première Église, c'est Jérusalem. Et comment est-ce que ça démarre et comment est-ce que ça s'organise? Ça nous est relaté donc, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 42, dans un texte que tout le monde, enfin la plupart d'entre vous connaissent bien, et qui dit « Ils étaient assidus, alors il y a quatre pôles, on va dire, de leur activité, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et vous le savez sans doute, la suite du texte ne parle pas d'autre chose, mais développe ces quatre éléments en disant « Oui, mais concrètement, ça se passait comment ?» Alors, la suite du texte, ça consiste à nous dire, ben voilà, par exemple, la fraction du pain, c'était dans les maisons, ça se faisait en famille, ça se faisait dans un cercle restreint. En revanche, l'enseignement des apôtres, c'était dans le temple, il n'y avait que les apôtres, ceux que Jésus avait choisis, qui pouvaient enseigner, et ils enseignaient tout le monde, et dans un seul endroit, qui était l'endroit même où Jésus lui-même avait enseigné. Donc dans le temple, bon, etc. Et donc, on nous explique dans la suite du texte en quoi concrètement ça consistait l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la prière et la communion fraternelle. Alors la communion fraternelle, enfin, c'est un seul mot en grec, hein, que vous avez peut-être déjà entendu, koinonia. C'est d'autant plus important de le définir que, a priori comme ça, on ne voit pas ce que c'est. Prière, on voit ce que c'est. Repas fraternel, on voit ce que c'est. Enseignement, on voit ce que c'est. Communion, alors dans le grec classique, c'est-à-dire chez les auteurs classiques, c'est une forme de collectivisme, c'est ce que littéralement ce que les amis mettent en commun. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et là, à la suite du texte, nous montre que c'est très concret ce qu'ils appellent la communion, puisque quand il s'agit de ça, quand il s'agit de développer ça, on nous dit « Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. » Et après, on nous parle « Unanime, ils se rendaient assidûment au temple tous les jours. » Ça, c'est pour l'enseignement des apôtres. Donc, on découvre avec cette explication que ce qu'on appelle communion fraternelle dans les traductions classiques, c'est pas du tout un sentiment, c'est pas du tout on s'aime bien, tous jeunes, tous copains, ça va bien au-delà de ça, puisque on mutualise, on met tout en commun, c'est-à-dire que d'une certaine manière, mais j'y reviendrai, on abolit la propriété privée et on étend les biens possédés par les uns et les autres à une propriété collective. Bon, jusque-là, alors, c'est très ambitieux. Et la question qui peut venir à l'esprit, c'est pourquoi on ne le fait pas. Bon, mais on y reviendra plus tard. Parce que la suite du texte revient là-dessus, donc un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire au chapitre 4 et au verset cette fois 32, Donc, on reprend ce qui a été dit précédemment. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent, en effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres, chacun en recevait une part selon ses besoins. Et on nous donne un exemple, ainsi Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, possédait un champ, c'était un lévite originaire de Chypre, il vendit son champ et en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, exemple de ce qui précède, c'est-à-dire un comportement, vous l'avez compris, qui consiste à vendre les propriétés qu'on a. Alors, les propriétés, à l'époque, ce n'est pas des titres en bourse, évidemment, c'est des champs, principalement, hein, puisque la richesse, elle est d'abord agraire. Donc, c'est des champs, éventuellement des maisons, et on apporte ça aux pieds des... Magnifique. Magnifique élan de solidarité. J'allais dire, jusque-là, ça va. Sauf que le texte continue, et vous le savez, et je continue, donc là on est au chapitre 5. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété, d'accord avec Saphira, sa femme, puis de connivence avec elle, il garda une partie du prix, apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre? Ou si tu le vendais, disposer du prix à ton gré? Comment ce projet a-t-il pu venir dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. 3 heures environ s'écoulèrent, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella, « Dis-moi, c'est bien à ce prix-là que vous avez vendu le terrain ?» Elle dit, « Oui, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre reprit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ?»« Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à ta porte. Ils vont t'emporter toi aussi. » Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. Quand les jeunes gens entrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit alors toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cet événement. Voilà. Ça finit plus mal que ça a commencé, cette histoire. Et on se surprend à dire ce serait peut-être pas mal si ce récit n'existait pas. Parce que franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est la première idée qui me vient, ce récit il fait tâche. On a une église, alors je n'ai pas lu les textes, mais vous les connaissez, on a une église qui fait rêver, enfin en tout cas qui donne envie. Une église où, dès qu'on parle aux foules, les foules entières sont convaincues, les foules entières volent, se précipitent pour devenir disciples du Christ. On nous dit que les apôtres font des miracles à tour de bras, on nous dit qu'ils s'aiment tellement qu'ils ne sont plus qu'un seul cœur et une seule âme. Enfin, ça vous fait pas rêver, ou? Et puis, boum, au milieu de ce tableau idyllique de cadavres. Là, ça fait moins rêver, déjà. Moi, l'église de Jérusalem, j'ai vraiment envie d'en faire partie. J'ai vraiment envie qu'on soit 3000 de plus tous les dimanches. Enfin, à chaque dimanche, 3000 de plus que le dimanche précédent. Bon, ça poserait quelques problèmes logistiques, mais... Là, il faudra un micro pour le coup. Mais quand même, c'est le rêve. Et je rêverais aussi qu'il y ait parmi nous des gens qui aient reçu de Dieu ce don de pouvoir guérir tous les malades. On viderait l'hôpital de grâce. Effectivement, ça fait de la pub, c'est merveilleux. Bon, sauf que 2 cadavres au milieu, quand même. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème? Ça pose beaucoup de problèmes. D'abord parce que c'est d'une sévérité mais incroyable. C'est-à-dire... Ces gens-là, parce que si on fait la séparation entre les uns et les autres, il y a ceux qui ont accepté le message, ceux qui ne l'ont pas accepté. Eux, ils sont dans la bonne catégorie, ils ont accepté le message. Ils sont devenus chrétiens, ils sont membres de l'Église. Bon. parmi les membres de l'Église, puisque vous l'avez, nous l'avons lu ensemble, il n'est absolument pas obligatoire, il n'y a aucune obligation à cet égard, puisque Pierre dit à Ananias, t'aurais pu garder le prix de ton champ, enfin t'aurais pu déjà garder ton champ, ne pas le vendre, et puis, quitte à le vendre, t'aurais pu garder le pognon. T'es pas obligé de venir nous l'apporter. Bon, donc il n'y a pas d'obligation. Donc y a deux, ça refait deux catégories. Parmi la bonne catégorie qui a adhéré au message et qui est devenue chrétienne, il y a la catégorie de ceux qui, j'allais dire, jouent le jeu de la collectivisation des biens, et puis ceux qui ne le jouent pas parce qu'ils font d'autres choix, et on ne les vire pas de l'Église pour autant. Ils sont libres. Ils sont libres de garder leur champ, ils sont libres de garder leur maison, ils sont libres de garder le prix de leur champ quand ils le vendent. Et puis il y a ceux qui disent, non, nous, on veut manifester notre volonté communautaire au point 2. Et eux font partie de cette catégorie-là. De bons points déjà. Et ce qu'ils commettent, ce n'est pas un crime, c'est-à-dire ils ne volent le pognon de personne. Ils ne disent pas, après avoir assommé une petite vieille et lui avoir pris son magot, la porter aux pieds des apôtres en disant « c'est notre pognon ». Non, c'est vraiment leur argent. Donc, le seul « crime » entre guillemets qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir dit « c'est la totalité ». On est bien d'accord, le texte est clair là-dessus. Le seul crime qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir dit « c'est la totalité du prix », alors que ce n'est pas vrai, alors qu'ils en ont gardé une partie. La peine de mort pour ça, waouh, c'est violent, hein. C'est violent, et du coup, deuxième réflexion que ça m'inspire, du coup c'est dommage parce que, alors, je ne le dis pas de cette manière-là pour vous choquer, mais pour vous faire prendre conscience de la réalité du problème que ça pose. Je vais oser dire, c'est dommage parce que Dieu s'était presque racheté une conduite. Dieu s'était presque racheté une conduite. Ah, faut que tu te fasses appareiller, là. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, on se l'est déjà dit plusieurs fois, et notamment Emmanuel j'ai le souvenir d'une ou même plusieurs de ses interventions, on n'accepte pas facilement, il faut être honnête, il faut regarder les réalités en face, on a du mal avec les textes qui nous parlent d'un Dieu qui dit « je me choisis un peuple » et qui dit à ce peuple « je vous donne une terre ». Petit détail au passage, cette terre n'est pas tout à fait vide, donc les gens qui l'occupent, vous allez les massacrer, jusqu'au dernier. Et surtout, n'oubliez pas d'en massacrer un seul, parce que sinon c'est moi qui vous désigne. Bon, ce Dieu-là, on a un peu de mal avec, quand même. Alors, je ne veux pas m'expliquer là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet. Mais on est bien content, en tout cas, que, beaucoup plus tard dans l'histoire, Dieu se présente comme un Dieu qui, d'une part, n'a l'intention de tuer personne, mais qui, d'autre part, donne sa vie, au contraire, pour sauver la nôtre. Et dont le message principal, c'est de dire, il n'y a pas d'autre voie que de vous aimer les uns les autres. Ah, ce Dieu-là, on n'a pas de problème avec. On n'a pas de problème avec. Moi, un Dieu qui me dit, je me sacrifie pour toi, et qui dit, je t'aime, à un point que tu ne pourras jamais mesurer. Et ce que je te demande, c'est de donner aux autres un tout petit peu, dans la mesure de tes capacités, de l'amour, que j'ai déversé sur toi, mais ce Dieu-là, je l'aime, forcément. Sauf que c'est le même. Sauf que c'est le même, parce que là, pour le coup, la phrase qui dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et tout le temps, elle est vraie aussi dans ce sens-là. Et ce Dieu qui était capable de foudroyer celui qui osait toucher à un truc de l'arche auquel on avait dit de ne pas toucher et qui était foudroyé sur le champ, ben voilà que ça recommence. En fait, Dieu n'a pas changé. Il est toujours aussi violent. Il est toujours capable de punir d'une manière disproportionnée quelqu'un qui commet un petit mensonge, et sa femme aussi, parce qu'ils se sont mis d'accord pour garder du pognon. Bon, on va en faire une pendule. Et clac! Alors, bon, je vais pas me lancer dans un cours de théologie parce que c'est pas le lieu, mais cette tension entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, vous le savez peut-être, ou en tout cas certains d'entre vous le savent, ça va donner lieu à alors ce qu'on appelle maintenant une hérésie, mais à l'époque c'était un grand débat dans l'Église. Vous avez peut-être entendu prononcer le nom de Marcion. Marcion, c'est quelqu'un qui a dit non mais il y a tellement d'écart entre le Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu vengeur, brutal, violent, colérique, et le Dieu du Nouveau Testament, Dieu d'amour, que c'est pas le même, tout simplement. Et Marcion va élaborer une théorie, alors, qui sera disqualifiée par l'Église, certes, mais qui au départ jouit d'une certaine audience. Et c'est pour ça que les marcionites ont pris une place importante dans l'Église. Alors, pas entrer dans les détails, mais surtout dans l'Église d'Orient, plus que dans l'Église d'Occident. Bref, lui, il a dit, mais le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas le Dieu créateur. Et en fait, Jésus-Christ est venu pour racheter l'humanité au Dieu créateur qui est violent, brutal, intransigeant, pour ce Dieu d'amour qui n'aurait... Bon, bref. Et donc, ce passage pose aussi ce problème-là. Pose aussi ce problème-là, parce que, moi, encore une fois, j'adhère à cette Église des premiers temps, si c'est pour voir des miracles, si c'est pour voir une croissance à trois chiffres dans les effectifs, si c'est pour voir des gens tellement heureux d'être ensemble qu'ils s'aiment et qu'ils n'arrêtent pas de se le dire. Bon, maintenant, si on ajoute qu'au premier petit mensonge, je vais faire un infarctus, là, moyen, quoi. Et alors, cerise sur le gâteau, et après j'en ai terminé, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime bien, c'est une de mes méthodes, un de mes fonctionnements intellectuels, ça consiste à dézinguer d'abord, et puis après à essayer de remettre les choses dans la bonne perspective. Mais donc cerise sur le gâteau, c'est que, on nous dit... et on le croit volontiers, que toute la Bible est là pour notre instruction, que c'est fait pour nous servir de... ça a une vertu pédagogique. Bon, très bien. Sauf que là, quelle vertu pédagogique peut avoir un épisode, j'allais dire sanglant, en tout cas violent, c'est-à-dire, il tombe raide, hein, raide mort, c'est pas du théâtre, alors que... c'est quelque chose qu'on ne pratique plus du tout. Et c'est quelque chose que, très tôt, ils ont cessé de pratiquer. Pourquoi ? Parce que l'idée de mettre tout en commun, parce que quand vous vendez un champ, ça vous fait tout de suite un gros paquet d'argent, bien sûr, que vous mettez au pied des apôtres, bon, ça c'est entendu, mais ça fait tout de suite un gros paquet d'argent, sauf que la récolte suivante, elle n'est pas pour vous, elle est pour l'acquéreur du champ. Autrement dit, d'un strict point de vue économique, c'est une politique à très court terme, évidemment. Parce qu'une fois qu'on a épuisé tout le produit de la vente de tous les moyens de production, bah, terminé, il n'y a plus de pognon. Bien. Alors, au départ, effectivement, distribuer à chacun, tout ça, parfait. Mais il y a un moment où ça se tarit. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça quand même ? Ils ont fait ça quand même parce qu'au départ, il y a eu, je ne vais pas appeler ça un malentendu, mais il y a eu une conviction forte que... le retour du Christ qui avait été promis par lui-même était imminent, mais imminent au sens humain du terme, c'est-à-dire que une génération, il avait eu une phrase comme ça d'ailleurs, que une génération ne passerait pas avant que ça se produise. Et donc à partir du moment où on se dit que la fin du monde est pour après-demain, effectivement il n'y a plus besoin d'un champ. Bon, parce que la prochaine récolte, on s'en fout, il sera revenu. C'était leur conviction, et c'est ce qui les a portés à faire ça. Bon, il se trouve que ce n'était pas la bonne lecture des choses, et que du coup, dans toutes les autres églises qui ont été fondées par la suite, il n'a plus été question de vendre les moyens de production pour les mutualiser. Donc l'expérience collectiviste, elle n'existe que dans l'Église de Jérusalem, au point que, à chaque fois que vous entendez parler dans vos lectures de collecte organisée par Paul dans toutes les églises d'Asie mineure, collecte qu'il appelle, avec sa formulation à lui, en faveur des saints, ça veut dire ça. Ça veut dire, à Jérusalem, ils n'ont plus aucun moyen de production, donc il faut venir à leur secours. Et donc, Paul va élaborer une théorie qui consiste à dire, c'est grâce à eux, puisque c'est de là que le message est parti, donc c'est grâce à l'église de Jérusalem que vous, Corinthiens, Éphésiens, Galates, vous avez connu l'évangile. Pardon, heureusement que je ne fais pas ça dans le micro du coup. Et donc, il n'est pas illégitime que, puisque d'une certaine manière vous récoltez leurs biens spirituels, ils récoltent vos biens matériels. Et d'où l'organisation d'une collecte en faveur de l'église de Jérusalem, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Bon. La question là reste entière, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie une sanction aussi sévère pour un couple qui n'a fait que, certes, s'entendre pour mentir et mentir aux apôtres, mais qui n'a pas commis d'autres crimes que celui-là. Il faut être conscient que quand on se comporte comme ça, et encore une fois, ça peut paraître, je ne vais pas dire anodin, mais ça peut paraître suffisamment bénin pour ne pas mériter la peine de mort, on envoie un message, et du coup un message mensonger, dans trois directions. D'abord, alors, j'allais dire d'abord, vous avez entendu à quel point les termes employés par Pierre sont durs. C'est-à-dire, c'est Satan qui vous a inspiré ça, et vous avez menti, non pas à nous, il ne dit pas « vous nous avez menti à nous les apôtres », non, vous avez menti à l'Esprit-Saint. Donc je reviens à ce que je disais, s'il a des termes aussi durs, c'est parce que ça envoie un message dans trois directions. D'abord, comme le dit Pierre, effectivement, c'est un mensonge à Dieu. Alors, un mensonge à Dieu, vous me direz, personne n'est assez crétin pour penser qu'on peut mentir à Dieu qui sait tout. Oui, bien sûr. Mais ça a aussi un impact sur les autres. C'est-à-dire, je fais croire aux autres que je suis avec Dieu dans ce type de relation alors que ce n'est pas vrai. Je m'explique. Vendre ses biens et se dessaisir de la totalité, puisque ça, c'est ça qui est en cause, se dessaisir de la totalité du produit de la vente, ça veut dire quoi par rapport à Dieu? Ça veut dire, mon Dieu, à partir de maintenant, je te fais entièrement confiance pour ma survie. Maintenant, si ce n'est pas toi qui me nourris, ben je vais mourir de faim. Je fais avec toi ce pari, qui est tout simplement le pari de la foi, de te dire, ou bien je compte sur moi, ou bien je compte sur toi, et ben je fais le choix de compter sur toi, et sur toi seul, et pas sur le produit de mon travail, je te fais cette confiance absolue qui s'appelle la foi. Alors, évidemment, quand c'est pas vrai, Dieu n'est pas dupe, bien sûr, mais devant les autres, quel prestige! Quel prestige, parce que je vous fais croire, en essayant de faire croire aux apôtres que je me dessaisis de la totalité de mon patrimoine, je vous fais croire à tous que je suis avec Dieu dans cette relation de confiance, que j'ai une foi absolue, que je suis un modèle, et que surtout, regardez-moi bien, parce qu'il faut suivre mon exemple. Alors que tout ça, c'est un mensonge. Derrière ça, il n'y a rien, il y a du vent, il y a l'envie de se garder pour soi de quoi vivre, donc l'affirmation secrète d'une volonté de compter sur moi plutôt que sur Dieu. Alors, encore une fois, ce qu'il faut bien mesurer dans cette histoire, c'est que ce que je viens de dire là, c'est pas ça qui leur est reproché. C'est pas ça qui leur vaut la peine de mort instantanée. C'est le mensonge. Manquer de foi, ça n'a jamais provoqué chez « Ah, tu manques de foi, boum, un infarctus ». Non. Si quelqu'un manque de foi, qu'il la demande. Et Dieu lui donnera. La question n'est pas là. La question, c'est de faire croire aux autres qu'on est ce qu'on n'est pas du tout, en réalité. Dans notre rapport avec Dieu. Parce qu'on est aussi des modèles les uns pour les autres. Et qu'un faux modèle, c'est désastreux. Et cette sévérité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette sévérité, en apparence excessive, de Pierre, qui dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, allez, tu vas ressortir les pieds devant. Et il dit la même chose 3 heures plus tard à la femme. Et ça se produit. Cette sévérité qui nous paraît, à première vue, excessive, en réalité, c'est une façon, pour les apôtres, et pour Pierre singulièrement, de... alors, l'image est audacieuse, hein, mais d'enlever une tumeur maligne dans un corps sain. Vous voyez ce que je veux dire? Quand, si vous avez, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, une tumeur maligne et qu'on vous l'enlève, vous n'allez pas dire au chirurgien « Oh, bah quand même, c'est cruel, parce que c'est mes cellules quand même, hein, c'est pas sympa de virer mes cellules comme ça, mes pauvres petites cellules, pour être indulgent, hein, pour attendre qu'ils s'améliorent. » Non, non. Non, vous êtes tellement content que vous êtes débarrassé de cette pourriture que vous embrassez le chirurgien à votre réveil. Là, c'est exactement ça. Pierre ne regarde pas, parce qu'effectivement, nous, la valeur de la vie humaine, etc., tout ce que vous voulez, Pierre ne regarde pas ça du tout. Il regarde la gangrène, le cancer que peut constituer un comportement de cette nature dans l'Église et ablation immédiate. Il coupe. Il coupe, encore une fois, comme une tumeur, comme une tumeur maligne. Et donc, pourquoi ? Ben parce que l'idée de se donner comme modèle des gens qui sont dans le mensonge et dans l'hypocrisie, l'Église n'y survivrait pas. Donc, premier message qui est envoyé, et effectivement les trois messages sont mensongers, c'est d'une certaine manière un message à Dieu en disant « je te fais confiance si c'est pas vrai ». On a le droit de ne pas avoir une confiance absolue en Dieu, mais on n'a pas le droit de mentir à ses frères et sœurs sur ce plan-là. Voilà ce que dit le récit. Le deuxième message, il est envoyé ben justement à la communauté. Il est envoyé à la communauté parce que dire ça, c'est de dire, ça consiste à dire aux autres, je consens librement, mais totalement, à n'être plus qu'un avec vous. Je consens à ce que ce qui pourrait passer pour un slogan, c'est-à-dire la totalité de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme, je consens à ce que ça s'inscrive dans la réalité la plus concrète, c'est-à-dire ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, et plus de séparation entre nos patrimoines respectifs, tellement j'ai la conscience que nous formons ensemble un seul corps. Et c'est ça l'ambition, c'est ça l'Église. J'ai tellement conscience que nous formons ensemble un seul corps, que de la même manière que quand je mets des aliments dans ma bouche, bah c'est pas seulement pour la bouche, mais c'est aussi pour nourrir tous les autres organes, etc. Enfin, bon, je vais pas multiplier les exemples, on se comprend parfaitement, l'image du corps est parfaitement parlante par rapport à la communion qui doit être la nôtre. Dire ça, manifester ça, le dire par mes gestes, en disant « voilà, vous êtes tellement pas des autres pour moi que j'amène à nos responsables tout ce que j'ai à charge pour eux de le répartir entre nous, parce que vous, vous êtes moi et moi je suis vous », si c'est pas vrai, là pour le coup, c'est aussi un vrai cancer pour la communauté. Et on peut pas garder ça, on peut pas garder ce mensonge-là. Et encore une fois, mais je vais pas le redire à chaque fois, ils sont dans une totale liberté, il n'y a aucune contrainte, ça n'est écrit nulle part, ils sont obligés de rien. Mais par contre, si tu dis que tu le fais, fais-le, mais ne mens pas. Et puis, le troisième, j'allais dire le troisième message, il est envoyé aux responsables de la communauté. Parce que ça veut dire quoi ? L'expression est belle, il parle de déposer l'argent aux pieds des apôtres. Concrètement, d'ailleurs, c'est vraisemblablement comme ça que ça se faisait. À charge pour eux de distribuer, et de distribuer selon les besoins de chacun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ces gars-là, on leur dit, ben voilà, le fruit d'une vie de travail, le fruit de, ou de l'héritage de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, je vous fais confiance, et une confiance absolue, pour en faire bon usage. Je vous fais confiance pour distribuer ça en fonction des besoins, c'est-à-dire avec de manière juste, tout simplement, de manière équitable. Je vous fais confiance pour gérer ce problème-là. Alors que ce n'est pas vrai. Si on en garde la moitié, ce n'est pas vrai. Ce qui motive Ananias et Saphira, c'est de dire, alors, parce qu'ils auraient pu, enfin, encore une fois, Pierre leur dit et leur répète, ils auraient pu garder le champ, ils auraient pu garder l'argent du champ, mais là, le réflexe, ça consiste à dire, bon, on mutualise, d'accord, mais ces gars-là, bon, on leur fait une confiance, mais qui n'est pas toutefois absolue, parce que parce qu'on n'est pas sûr de recevoir la part qui nous revient. Vous savez, c'est comme en ce moment le débat sur l'Union européenne, c'est-à-dire que tous les pays contribuent, et puis quand il s'agit de redistribuer dans la politique agricole commune, ah oui, mais nos agriculteurs, ils n'ont pas, give me my money back, hein, la phrase de Margaret Thatcher qui dit, moi je veux bien participer à la vie collective, mais par contre, je veux recevoir tout ce que j'ai vocation à recevoir, et notamment le pognon que j'ai donné, il faut qu'il revienne. Bon. C'est ça aussi l'état d'esprit d'Ananias et Saphira. C'est de dire, on n'est pas tout à fait sûr que les apôtres soient capables de gérer cette masse de pognon dans l'intérêt de chacun. Parce que du coup, ça fait un gros paquet de pognon. Dans l'intérêt de chacun. Et du coup, on fait... Alors, là encore une fois, c'est le mensonge qui est coupable. C'est pas ce raisonnement-là. Ce raisonnement-là, on a le droit de le tenir. On a d'autant plus le droit de le tenir que s'ils avaient dit, s'ils s'étaient plantés devant Pierre en lui disant... on a vendu notre champ, mais alors on va en garder une partie, ou même on va garder l'argent en totalité, parce qu'on ne vous croit pas capable de gérer ça intelligemment et de le répartir équitablement entre les membres. Ben, ils auraient eu raison. Ils auraient eu raison de dire ça. Parce qu'il s'avère que, alors sans que ça ait donné lieu à des catastrophes, puisque ça a été rectifié vite fait, mais vous le savez si vous avez lu la suite, c'est que quand les apôtres, qui n'ont pas conscience de ce que ça implique de gérer la fortune collective, quand les apôtres vont commencer à organiser, ou plutôt à laisser s'organiser, à la va comme je te pousse, la distribution des repas, eh ben, ils vont oublier de s'apercevoir que les veuves de culture grecque, je me suis déjà exprimé là-dessus, donc je fais bref, mais ils vont oublier de s'apercevoir que les veuves de culture grecque vont échapper à la distribution, et que du coup, elles n'auront pas à manger. Et il faudra que des gens viennent leur dire, une fois que les veuves de culture grecque passeront derrière une affiche sans la décoller, parce qu'elles auront perdu 15 kilos, non mais là, il y a un gros souci, les gars. Ah oui, bon, bah alors on va s'organiser autrement et on va prendre un collège de gens de culture grecque, et on le sait grâce à leur prénom, pour organiser ça à la manière grecque et pas à la manière, juive. Bon. Donc, Ananias et Saphira auraient été, j'allais dire, légitimement en mesure de dire aux apôtres, oh là, on vous confie pas notre pognon à gérer parce que c'est pas à votre portée, parce qu'il y a des choses que vous voyez pas, et encore une fois, c'est pas ça qui leur est reproché. Mais par contre, mentir en disant, tenez, on vous donne tout, hein, on vous fait entièrement confiance, hein, les yeux fermés, alors que c'est pas vrai. Donc, bon, oui, je vais pas plus loin, mais on va s'arrêter là. Ce que ce récit nous apprend globalement, c'est que Dans l'Église, l'exigence de vérité est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout parce que le mensonge est un cancer. C'est parfois difficile, alors je vais même plus loin, ça m'est parfois difficile de dire les choses que je crois vraies, évidemment, sans... En prenant les précautions, le but, c'est pas non plus de se faire du mal. C'est pas de dire aux autres « mais j'en ai rien à foutre de vous, vous pouvez crever la bouche ouverte, moi je garde mes biens, ça va, je suis à l'abri du besoin, chacun fait sa vie, débrouillez-vous. » Bon. Évidemment, c'est pas un discours qu'on peut tenir. On peut pas non plus dire aux responsables « non mais vous êtes tellement nuls que je vous fais confiance pour rien, donc je fais comme si vous n'existiez pas et je gère tout ça dans mon coin. Bon, » ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'être dans cette brutalité-là de relation. Mais pour autant, alors c'est tout l'équilibre pour lequel on a besoin vraiment du secours de Dieu, c'est que il faut être capable de se dire les choses. Il suffit de regarder les chaises vides et de penser à ceux qui les occupaient avant pour savoir que dans un passé récent, il se trouve qu'on est numériquement plutôt dans une phase de déclin. C'est comme ça, on peut le déplorer, mais c'est la réalité. Dans un passé relativement récent, alors je ne parle pas du rapport qu'ils ont avec Dieu et dont je souhaite et j'espère qu'il se pérennise, bien sûr. Mais il y a des gens qui nous ont dit, à nous, l'Église de grâce, cette communion, cette koinonia, cette communion fraternelle, elle n'existe plus avec vous, et au revoir. Bon, c'est triste, mais j'allais dire, au moins c'est vrai. Et si, pour nous qui sommes restés, cette communion, elle est abîmée, elle est meurtrie, elle est en péril, elle est en déclin, osons-nous le dire. Et j'allais dire même chose, il y a des gens, alors pas forcément qui sont partis, il y en a aussi dans ceux qui sont restés, mais qui n'ont pas cette... On est quand même là pour se parler en vérité, et pas pour balancer un discours lénifiant en disant « Allez dans la paix du Seigneur ». Bon, il y a des réalités. Il y a des gens qui, la plupart d'entre vous étaient là à la dernière rencontre informelle, il y a des gens qui ont aussi, à l'égard des responsables, ce discours qui consiste à dire « on vous fait plus confiance pour mener la barque ». J'allais dire, il est préférable de se le dire, alors de se le dire avec, enfin sans, encore une fois, avec les précautions qui vont faire que la relation ne sera pas rompue instantanément à cause de la brutalité du propos, mais c'est beaucoup plus important de se le dire et d'être vrai que de faire semblant. Alors, je ne dis pas qu'on va tomber raide mort tout d'un coup, comme Ananias et Saphira. Mais encore une fois, j'ai dit le mensonge est un cancer. Je crois que tout dans la Bible le proclame. Et que faire semblant d'être un seul corps et une seule âme, si ça n'est plus le cas, parce que ça peut être guéri, ça aussi. Ça peut être. Moi, je crois profondément que les relations abîmées, ça peut être réparé. Je crois qu'une confiance perdue, ça peut être restauré. C'est aussi de l'ordre du miracle. Dieu est capable de tout, y compris ça. Et donc je crois que cette quête de vérité et cette demande à Dieu de nous secourir, elle permettra le rétablissement, à chaque fois que c'est nécessaire, de la communion fraternelle. Voilà. Merci de m'avoir écouté.